Bon, si vous voulez bien, on va commencer et je rappelle d'abord les séminaires des prochaines séances. Tout à l'heure, à 11h, ce sera Pierre Agostini, du service de physique atomique de Saclay, qui va nous parler de processus multiphotoniques dans les rayons X, UV, infrarouge et applications. Mardi prochain, il n'y aura ni cours ni séminaire, et puis ça reprendra le 9, avec un séminaire de Astrid Lambrecht, du laboratoire Kassler-Brossel, sur relativité du mouvement dans le vide quantique. Le 16 novembre, ce sera Iso Abraham, du laboratoire Concept et dispositifs pour la photonique du CNRS CNES Bagneux, qui nous parlera de renforcement et inhibition de l'émission spontanée dans les microcavités à semi-conducteurs. Le 23 novembre, à 11h, ce sera Christian Brunel, du Centre de physique moléculaire optique hertzienne de l'Université de Bordeaux, qui nous parlera de optique non linéaire avec des molécules individuelles. Et enfin, le dernier mardi de novembre, le 30 novembre, ce sera Philippe Laurent, du BNM, Bureau National de Métrologie LPTF, qui nous parlera des récents développements sur les horloges atomiques à atomes froids au BNM LPTF. Bon, donc je commence maintenant un chapitre suivant du cours, qui est interférence entre deux condensats. Et je voudrais d'abord, si vous voulez, faire une introduction brève. Comme je l'ai dit au cours de la première séance, il y a un peu plus de 2 ans, une expérience très importante réalisée au MIT dans le groupe de Wolfgang Ketterle, dont le principe est le suivant, et je vais y revenir dans un petit moment plus en détail. On considère deux pièges séparés spatialement et contenant chacun un condensat. On a un certain nombre de bosons piégés dans l'étape psi 1 du condensat 1, un certain nombre de bosons piégés dans l'étape psi 2 du piège 2, et à un instant t égale 0, on coupe brusquement les deux potentiels de piégeage. À ce moment-là, les atomes sont libres, les deux nuages, les deux condensats subissent une expansion balistique, ils tombent dans le champ de gravité et puis leur dimension croît, et au bout d'un certain temps, s'ils étaient séparés au début, ils vont se recouvrir, et la question qu'on se pose, c'est est-ce que dans la zone de recouvrement des deux condensats, quand les fonctions d'onde des atomes se recouvrent, est-ce qu'on va observer des franges d'interférence? Dans quelles conditions? Si oui, quelles sont les caractéristiques de ces franges? Est-ce qu'elles sont droites? Est-ce qu'elles sont courbées? Quelle est l'interfrange? Voilà, toute une série de questions donc, qui ont reçu une réponse expérimentale et qui ont été l'objet de très nombreux travaux théoriques. Donc ce que je voudrais aujourd'hui, c'est expliquer un petit peu ce phénomène physique, décrire l'expérience qui a été faite et discuter un petit peu ce qu'on peut en tirer et quels sont les problèmes qu'il faut ensuite résoudre. Donc je vais maintenant, dans une deuxième partie, introduire quelques notations et quelques hypothèses sur le modèle que nous allons utiliser pour décrire une telle expérience. Alors, j'appelle psi n0 l'état individuel normé dans lequel sont condensés les bosons du piège 1 à l'instant initial t égale 0. Alors, si j'ai n bosons dans ce même état, j'ai un état de Fock que je dessine par n, indice psi n0, c'est une notation un peu compliquée, je ne prends pas n1 pour la raison suivante, c'est que quand le condensat va se tomber puis grossir balistiquement, psi n0 ne sera plus psi n0, sera psi nt, donc il faut que j'ai une autre notation pour dire n bosons dans l'état psi n de t. Donc n psi n0, c'est un état de Fock où il y a n bosons dans l'état psi n0, que je peux écrire également, n psi n0 résulte de l'action sur le vide, de l'opérateur de création accroît psi n0 d'un boson dans l'état psi n0 à la puissance n, et pour avoir un état normé, je divise par racine de factoriel n. Donc accroît de psi 1-0, c'est un opérateur de création d'un boson dans l'état psi 1-0, et puis je peux définir de même l'opérateur d'annihilation. J'aurai besoin dans la suite des états cohérents, et j'appellerai alpha 1 psi 1-0 un état cohérent du mode psi 1-0 défini par le nombre complexe alpha 1. De manière plus précise, l'état cohérent alpha 1 psi 1-0, c'est une superposition linéaire des états n dans l'état psi 1-0 avec des coefficients qui sont e puissance moins alpha 1 en modulo carré sur 2, alpha 1 la puissance n sur racine de factoriel n sommé sur n, de 0 à l'infini. Donc ça c'est un état cohérent. Un état cohérent dépend du mode dans lequel on est d'une part et dépend d'autre part du nombre complexe alpha 1, de son module et de sa phase. Alors vous rappelez que alpha 1 c'est le module de alpha 1 puissance phi 1 et le module de alpha 1 ce n'est rien d'autre que la racine carrée du nombre moyen de bosons dans le mode psi 1-0. Et j'aurai des notations bien sûr tout à fait identiques, analogues pour le condensat 2, l'indice 1 étant remplacé par l'indice 2. Qu'est-ce que nous allons prendre comme état initial des deux condensats? Je vais supposer ici, et puis ça sera l'objet du cours de le prochain cours, de justifier une telle hypothèse, je vais supposer que l'état initial est un état cohérent relatif de phase relative phi, que j'ai introduit dans l'ordre de la dernière séance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends d'abord un état qui est un produit de deux états cohérents, un pour le mode psi 1-0, l'autre pour le mode psi 2-0, alpha 1 psi 1-0 tensoriel alpha 2 psi 2-0, où alpha 1 est égal à module de alpha 1 et puissance phi 1, alpha 2 égale module de alpha 2 et puissance phi 2, et j'appelle phi 1 moins phi 2 la phase relative de ces deux états. Et un état cohérent relatif, ce n'est pas un état de ce type, c'est un mélange statistique de produits d'états cohérents. C'est un mélange statistique, donc je fais une moyenne sur les opérateurs densité correspondant à cet état. Alpha 1 en module, alpha 2 en module et phi étant fixé, et la phase absolue phi 1 de l'état alpha 1 étant équipartie entre 0 et 2π. Les états, je les ai introduits la semaine dernière, et nous avons vu que des états cohérents relatifs n'ont pas d'éléments non diagonaux entre des états correspondant à des nombres totaux de particules différents. L'opérateur densité décrit dans l'état cohérent relatif n'a que des éléments de matrice diagonaux dans la base où je repère les états par le nombre total de particules. Alors, je ferai, en principe, concrètement, nous ferons le calcul pour un état du mélange, alpha 1 puissance phi 1, alpha 2 puissance phi 1 moins phi. Il faut faire le calcul jusqu'au bout, jusqu'au niveau des probabilités. Et ensuite, ce sont les probabilités qu'il faut moyenner avec sur phi, et puis partir entre 0 et 2π. Quand on a un mélange statistique, on a une possibilité que le système existe dans tel état ou tel état, il faut calculer les probabilités pour chacun des états du mélange et moyenner les probabilités sur les probabilités d'occupation des différents états du mélange. Il ne faut pas bien sûr moyenner les amplitudes. Ce n'est pas une superposition d'états, c'est un mélange statistique d'états. Et pour simplifier, bien que ce ne soit pas une hypothèse essentielle, je vais supposer qu'initialement, les deux états psi 1-0 et psi 2-0 sont orthogonaux, c'est-à-dire que cette intégrale est nulle. Ça, ce n'est pas une hypothèse essentielle. Donc voilà l'état initial. Comment le système va-t-il évoluer une fois qu'on a coupé les deux potentiels de piégeage? Alors aujourd'hui, pour simplifier, j'y reviendrai par la suite, nous allons négliger dans une première étape les interactions entre particules. C'est-à-dire que chaque particule va évoluer après la coupure du piège indépendamment des autres. Il n'y a pas d'interaction supposée entre les particules. Aussi bien dans l'état initial, donc elles n'interagissent pas dans l'état initial quand elles sont piégées, que dans la phase d'expansion balistique une fois que le piège est coupé. Si je néglige les interactions entre particules, psi 1-0 et psi 2-0 sont à ce moment-là les états fondamentaux des deux pièges 1 et 2 dans lesquels sont condensées les particules. Et si j'appelle psi 1 de t la solution de l'équation de Schrödinger à une particule, l'état initial de cette particule étant psi 1-0, quand je coupe le piège, la fonction d'onde va évoluer, la particule toute seule, et un instant ultérieur, la fonction d'onde sera psi 1 de t. Donc j'appelle psi 1 de t donc la solution du problème à une particule. Si les particules n'interagissent pas, et s'il y a n particules initialement dans l'état psi 1-0, toutes ces n particules vont rester dans l'état qui suit pi n0 au cours du temps, et donc à l'instant t, je vais avoir n particules dans l'état psi 1 de t. Donc l'état de Fock, n psi 1 de 0, n particules dans l'état psi 1 de 0, se transforme au bout d'un certain temps t en l'état n psi 1 de t, où j'ai n bosons, les mêmes n bosons condensés dans l'état psi 1 de t. Je peux écrire, bien sûr, n psi 1 de t égale l'action sur le vide de l'opérateur a croix psi 1 de t, opérateur de création d'un boson dans l'état psi de t, à la puissance n, normalisé par racine de factoriel n au dénominateur. Je peux de même définir l'état, que devient l'état cohérent. Si j'ai à l'instant initial, dans le piège 1, un ensemble de particules qui est dans un état cohérent alpha 1 psi 1 0, qui est une superposition linéaire de l'état n psi 1 0, comme l'état n psi 1 0 se transforme en n psi 1 de t, l'état cohérent alpha 1 psi 1 0 va se transformer en état cohérent alpha 1 psi 1 de t, qui est la même superposition que tout à l'heure, à part que j'ai remplacé ici n psi 1 0 par n psi 1 de t. C'est-à-dire que j'aurai e puissance moins alpha module 1 au carré sur 2, somme sur n de 0 à l'infini de alpha 1 sur n, alpha 1 à la puissance n sur factoriel n, a croix de psi 1 de t, non plus a croix de psi 1 de 0, agissant sur le vide. Autrement dit, c'est un état cohérent, ayant exactement la même forme que pour l'état initial, le même alpha 1, par contre, il est relatif maintenant au mode psi 1 de t, et non plus au mode psi 1 de 0. Et bien sûr, j'ai de même des résultats analogues pour l'état cohérent alpha 2 psi 2 de t, dans lequel est transformé l'état cohérent alpha 2 psi 2 de 0 au cours du temps, et c'est la même superposition linéaire que tout à l'heure, à part que maintenant, j'ai a croix psi 2 de t au lieu de a croix psi 2 de 0. Dernier point, j'ai supposé initialement que les deux fonctions d'onde psi 1 et psi 2 étaient orthogonales. Comme elles évoluent de manière unitaire sous l'effet de la Hamiltonienne, d'évolution libre, elles restent orthogonales, ces deux fonctions d'onde, et psi 1 de t, psi 1 de t, psi 2 de t restent orthogonaux. Enfin, il me reste à introduire une dernière notion, qui est l'opérateur champ. Vous savez que l'opérateur champ au point R, il faut prendre une base orthonormée d'état, prendre la superposition linéaire des opérateurs de création ou d'annihilation dans chacun de ces états de base, multiplié par les fonctions d'onde correspondantes et sommé sur tous les états de base. Donc, j'ai déjà deux états orthogonaux, psi 1 et psi 2. Je peux compléter psi 1 et psi 2 par une base orthonormée, par des états psi, avec i différent de 2, pour faire avec psi 1 et psi 2 une base orthonormée. Et l'opérateur champ au point R, c'est A psi 1, opérateur de destruction d'une particule dans le mode psi 1 de t que multiplie la fonction d'onde psi 1 de R de t, plus la même chose pour 2, plus la même chose pour i différent de 1, 2, les états psi 1, psi 2 et psi i différent de 1, 2 formant une base orthonormée dans l'espace de Hilbert à une particule. Alors, dans la suite, bien sûr, comme je néglige les interactions dans cette première étape, les particules, les bosons vont rester dans l'état psi 1 de t, psi 2 de t. Les états psi de t avec i différent de 1 et 2 ne seront pas peuplés. Et si je m'intéresse à des valeurs moyennes de produits d'opérateurs psi et psi croix rangés dans l'ordre normal, comme les états psi avec i différent de 1 et 2 ne sont pas occupés, je peux complètement oublier les opérateurs ai, a psi i dans ce développement et a croix psi dans le développement de psi croix, parce que en faisant comité avec 1 et 2, j'arriverai sur le vide qui me donne 0. Donc, si je me limite à des états où seuls les modes psi 1 et psi 2 sont peuplés, et si je m'intéresse uniquement des valeurs moyennes de produits d'opérateurs rangés dans l'ordre normal, je peux oublier ces contributions avec i différent de 1 et 2, écrire pour l'opérateur champ psi égale a psi 1 psi 1 plus a psi 2 psi 2 et psi croix égale a psi 1 croix psi 1 étoile plus a psi 2 croix psi 2 étoile. Bien, alors maintenant que j'ai rappelé toutes ces notations, introduit toutes ces notations, je peux passer maintenant à l'expression du signal de détection. Euh, on met dans la zone de recouvrement des deux nuages un détecteur de particules et on regarde la probabilité P de R et de T de détecter un boson au point R et à l'instant T. Et on regarde comment cette probabilité va dépendre de R pour voir si elle révèle les oscillations spatiales qui montreraient l'existence de phrases d'interférence. Donc P de R de T, c'est la valeur moyenne dans l'état étudié de psi fois psi. Et rho, je sais que c'est un mélange statistique d'état alpha 1 psi 1 de T, alpha 2 psi 2 de T, avec la même phase relative des deux états et une phase absolue phi 1 équipartie entre 0 et 2 pi. Alors, je vais commencer par calculer la contribution d'un état du mélange statistique au signal de détection, au niveau des probabilités, et ensuite, je moyennerai sur tous les états du mélange statistique. Alors, quelle est la contribution de l'état alpha 1 psi 1 de T, alpha 2 psi 2 de T du mélange statistique? Je prends psi croix psi, et je le mets en sandwich entre le ket alpha 1 alpha 2 et le bras alpha 1 alpha 2. Je reprends le développement de psi et psi croix en A1 et A2, et A1 croix et A2 croix.
Oui, je m'excuse, dans mes notes, il y a une erreur. Il faut bien sûr lire sigma ij égale 1, 2 et non pas sigma ij différent de 1 et 2. Donc, en sortant psi étoile et psi j de l'élément de matrice, nous obtenons sigma ij de 1 à 2 de psi étoile de RT, psi j de RT, l'élément de matrice entre alpha 1, alpha 2, alpha 1, alpha 2 de l'opérateur A croix psi de T, A psi j de T. Nous pouvons maintenant utiliser le fait que les quêtes alpha 1 psi 1 de t et alpha 2 psi 2 de t sont des états propres des opérateurs d'annihilation A psi 1 de t et A psi 2 de t, avec des valeurs propres qui ne sont autres que petit alpha 1 et petit alpha 2, d'où l'on déduit que la contribution de l'état cohérent produit alpha 1 psi 1 de t, alpha 2 psi 2 de t à P de R de t vaut sigma sur I et J égale 1 et 2, là, corrigé également, c'est sigma IJ de égale 1 et 2, non pas sigma IJ différent de 1 et 2, de alpha I étoile alpha J, psi étoile de RT, psi J de RT, qui est encore égal à au modulo carré de alpha 1 psi 1 de R et de T plus alpha 2 psi 2 de R et de T, c'est-à-dire encore le modulo carré de racine de valeur moyenne de N1 et puissance I 1 psi 1 de R et de T, plus racine carrée de valeur moyenne de N2 et puissance I phi 1 moins phi, psi 2 de R de T, le tout au carré. Transparence décent. Quand nous regardons l'expression précédente, nous nous rendons compte que le facteur de phase et puissance I phi 1 apparaît comme un facteur de phase global, de sorte que quand je calcule P de R de T pour le mélange statistique, c'est-à-dire quand je moyenne sur et puissance I sur phi 1 entre 0 et 2 pi, comme et puissance I phi 1 n'apparaît plus, ce facteur de phase disparaît de la probabilité, et la moyenne sur phi 1 équipartie entre 0 et 2 pi ne change rien, et de sorte que l'expression finale pour le signal de détection point R à l'instant T, P de R et de T, s'écrit P de R et de T égale modulo carré de racine de N1 moyen psi 1 de R et de T, plus racine carrée de n2 moyen et puissance moins i phi, psi 2 de r et de t. Le résultat que nous obtenons ainsi traduit donc l'interférence entre deux fonctions d'onde macroscopiques, racine de n1 moyen psi 1 de r et de t et racine de n2 moyen psi 2 de r et de t, déphasées l'une par rapport à l'autre de phi. Finalement, nous voyons que pour interpréter le signal expérimental, il nous faut donc résoudre maintenant l'équation de Schrödinger ordinaire à une particule et calculer psi 1 de R et de T et psi 2 de R et de T à partir de leur valeur initiale, psi 1 de R et de 0 et psi 2 de R et de 0. Transparent, T 101. Donc, nous allons maintenant étudier la figure formée par les phrases d'interférence. Et le premier problème que nous avons à résoudre est très simple, en fait. Il s'agit d'étudier la propagation d'un paquet d'ondes entre un instant initial, où l'atome est encore dans le piège, et puis l'instant d'observation où le paquet d'ondes s'est propagé. Alors, je suppose je considère d'abord un problème très simple, qui est traité dans tous les ouvrages de mécanique quantique. Je suppose qu'à t égale 0, j'ai un paquet d'ondes de largeur spatiale sigma, centré en x égale 0 et de vitesse moyenne nulle. Ceci représente, si vous voulez, l'état fondamental dans lequel sont condensées les particules du condensat. À t égale 0, donc, on coupe le piège, et ce paquet d'ondes va évoluer librement, et il va s'étaler. Et pour un temps suffisamment grand, nous voyons qu'il va atteindre un point situé suffisamment loin de l'origine, par exemple un point D, d'abscisse D, D étant très grand devant sigma. J'ai dessiné ici donc la forme du paquet d'ondes dont l'aile atteint le point d'abscisse D. Question que nous allons nous poser maintenant, est-ce qu'on peut définir une longueur d'onde de De Broglie locale au voisinage du point d'abscisse X égale D? Transparent 102. Si vous voulez, pour répondre à cette question, nous allons prendre le problème simple d'un paquet d'ondes initialement gaussien et qui va donc le demeurer par la suite, problème qui est traité dans tous les ouvrages de mécanique quantique. Supposons donc qu'à l'instant initial, t égale 0, la fonction onde du système soit décrite par la gaussienne normalisée 2 sur pi sigma 2 à la puissance 1 quart et puissance moins x2 sur sigma 2. Comme je suppose que il s'agit de l'état fondamental d'un puits harmonique, cette fonction d'onde est réelle, ce qui veut dire entre autres que sa vitesse moyenne est nulle. À l'instant t, ce paquet d'ondes est devenu un facteur de phase global près qui ne dépend que de t, qui est indépendant de x, que je n'écris pas pour simplifier. Psi de x et de t égale 2 sur pi à la puissance 1 quart, exponentielle de moins x2 sur sigma 2 plus 4h bar de t2 sur m2 sigma 2, divisé par sigma 2 plus 4h bar de t2 sur m2 sigma 2 à la puissance 1 quart, que multiplie exponentielle i 2h bar t sur m, divisé par sigma 4 plus 4h bar de t2 sur m2, le tout multiplié par 2. La première ligne de cette expression est une fonction réelle, qui, en quelque sorte, est une enveloppe réelle qui décrit l'étalement du paquet d'ondes. Vous voyez en effet que cette exponentielle, cette gaussienne, s'élargit en fonction du temps. Quant à la deuxième ligne, elle décrit une fonction oscillante de l'abscisse x, et c'est elle qui va nous permettre de définir une longueur d'onde locale. Je vais supposer ici que t est assez grand pour que le paquet d'ondes atteigne le point d'abscisse x égale d très grand dans sigma. Ceci veut dire que le terme d'étalement au dénominateur de l'exponentielle de la première ligne, 4 alpha 2 sur t2 sur m2 sigma 2, est beaucoup plus grand que sigma 2. Ce qui veut dire également que 2 alpha t sur m sigma est très grand dans sigma, de sorte que je peux remplacer sigma 2 plus 4 alpha 2 t2 sur m2 sigma 2 par 4 alpha 2 t2 sur m2 sigma 2. Transparent T103. Reprenons donc maintenant le terme oscillant de la fonction d'onde psi de x et de t, qui est égal à exponentielle i 2h par t sur m sur sigma 4 plus 4h bar de t2 sur m de x2. En négligeant sigma 4 devant 4h bar de t2 sur m2, je peux réécrire ce terme exponentielle im sur 2h par t x2. Nous voyons là qu'il s'agit d'une fonction oscillante de x, dont la période spatiale est de plus en plus courte quand x croît. C'est-à-dire que cette fonction oscillante de x oscille de plus en plus vite avec x quand x croît, ce que j'ai dessiné ici. Plaçons-nous maintenant au voisinage du point d'abscisse x égale d. Et posons donc x égale petit d plus xi, où xi représente l'écart par rapport au point d, l'abscisse d, de sorte que je me limite ici à module de x très petit devant d. Je peux alors écrire x2 sous la forme x plus d au carré, et par suite, et réécrire exponentielle im sur 2h par dx2 sous la forme exponentielle im sur 2h par t d plus xi au carré, et en développant le carré, j'obtiens d'abord un terme constant, exponentielle im sur 2h par t d2, que multiplie, donc le terme du premier ordre en xi, exponentielle imd sur h bar t, xi. Nous voyons que, en fonction de xi, le deuxième terme ici représente une oscillation le vecteur d'onde local kappa égale md sur h bar t. Et ce petit calcul me permet donc maintenant d'introduire une longueur d'onde locale qui est lambda égale 2 pi sur kappa, c'est-à-dire h sur md sur t. Transparent T104. Le résultat précédent a une interprétation physique très simple, classique. Supposez que je considère une particule classique qui part à l'instant t égale 0 de x égale 0. Si cette particule arrive au point d'abscisse x égale d à l'instant t, elle doit évidemment avoir une vitesse petit v égale d sur t. Si elle a une vitesse d sur t, je peux à ce moment-là considérer la longueur d'onde de De Broglie associée à cette vitesse, c'est-à-dire lambda égale h sur mv en remplaçant v par d sur t, et j'obtiens lambda égale h divisé par md sur t, et je retrouve exactement le résultat du transparent précédent, ce qui veut dire que la longueur d'onde locale au point au voisinage de x égale d n'est rien d'autre que la longueur d'onde de De Broglie d'une particule qui, partant de x égale 0 à l'instant t égale 0, arriverait avec la vitesse d sur t au point d'abscisse d à l'instant t. Ce résultat, en fait, est dû physiquement à la relation de dispersion des ondes de De Broglie, qui est une relation non linéaire, puisque nous savons que oméga égale h bar k2 sur 2m, ce qui entraîne que la vitesse de phase, h bar k sur 2m, aussi bien d'ailleurs que la vitesse de groupe, croissent avec K. Ceci entraîne en particulier que dans un paquet d'ondes matérielles qui se propagent, les parties avant du paquet d'ondes sont plus bleues entre guillemets que les parties arrière, parce que la longueur d'onde locale à l'avant du paquet d'ondes est plus courte qu'à l'arrière. Transparent T105. J'ai maintenant tout ce qu'il faut pour calculer l'interfrange. Reprenons notre expérience donc d'interférence. À l'instant t égale 0, j'ai deux paquets d'ondes de largeur sigma, très petit devant d, centrés autour de deux points d'abscisse x égale moins d et x égale plus d respectivement. À l'instant t égale 0, on coupe les pièces, ces deux paquets d'ondes s'étalent, et pour d suffisamment grand, nous voyons ici que les deux paquets d'ondes qui se sont étalés vont avoir un recouvrement possible au voisinage de x égale 0. Au voisinage de x égale 0, pour un temps suffisamment grand, j'aurai donc deux ondes planes locales se propageant dans des sens opposés et de vecteurs d'onde kappa et moins kappa, où kappa a été calculé plus haut, ce que je peux écrire e puissance i kappa x plus e puissance moins i phi e puissance moins i kappa x, parce que rappelez-vous que la fonction d'onde centrée en d est déphasée de phi par rapport à la première, et en mettant un facteur e puissance moins i phi sur 2, je peux réécrire le terme précédent sous la forme d'une quantité proportionnelle à cosinus kappa x plus phi sur 2, où kappa est égal à md sur h bar t. Ceci est la fonction d'onde. Quand j'élève au carré pour avoir l'intensité ou la probabilité, j'obtiens cosinus carré de kappa x plus phi sur 2, c'est-à-dire 1 demi de 1 plus cosinus de kappa x plus phi, et je vois donc que j'ai un système de franges, dont la position, bien sûr, dépend du déphasage phi entre les deux fonctions d'onde initiales, et dont la période spatiale, c'est-à-dire l'interfrange, est égale à 2 pi sur 2 kappa, c'est-à-dire pi h bar t sur md. Il s'agit là d'un résultat important, qui va nous servir pour interpréter les expériences que je décrirai plus loin. Transparence T106. Avant de décrire ces résultats expérimentaux, j'ai encore un dernier point à discuter, c'est la structure spatiale de la figure d'interférence. Comment sont les franges? Sont-elles rectilignes? Sont-elles courbées? C'est cette question à laquelle j'essaie maintenant de répondre. Donc, je rappelle mes hypothèses. Je suppose que les deux condensats ont initialement leur centre situé sur l'axe OX en X égale plus ou moins D, qu'ils sont tous les deux décrits par des gaussiennes, que je peux donc écrire exponentielle de moins 1 sur sigma 2 facteur de x plus d au carré ou x moins d au carré, suivant qu'il s'agit d'un paquet d'ondes ou l'autre, plus y2 plus z2. Cette fonction d'onde se factorise en trois termes. Et puissance moins x plus ou moins d au carré sur sigma 2, que multiplie puissance moins y2 sur sigma 2, que multiplie et puissance moins z2 sur sigma 2. Je vois donc apparaître un produit de trois fonctions d'onde de x, y et z. Et l'expansion balistique est décrite par un hamiltonien qui se sépare en trois termes. Px carré sur 2m, qui est l'énergie cinétique le long de x. Py au carré sur 2m, qui est l'énergie cinétique le long de l'axe y. Et pz carré sur 2m moins mgz, qui décrit l'énergie cinétique et l'énergie de gravitation le long de l'axe z. Que peut-on donc conclure de ces hypothèses? Tout d'abord, comme l'hamiltonien se sépare en trois termes et que la fonction d'onde initiale est factorisée, cette propriété va demeurer vraie quel que soit l'instant t ultérieur. La fonction d'onde de chaque condensat va rester toujours factorisée à l'instant t en trois fonctions de x, y et z. Transparent t 107. Nous voyons à ce moment-là que la fonction d'onde dépendant de y ou de z est la même pour les deux condensats, puisque les fonctions d'onde initiales et puissance moins y2 sur sigma 2 et e puissance moins z2 sur sigma 2 sont les mêmes pour les deux condensats, et que l'évolution le long de y et z est rédigible par le même hamiltonien, hy ou hz. Par contre, les fonctions d'onde dépendant de x ne sont pas les mêmes parce que elles partent de deux conditions initiales différentes, et puissance moins x moins d au carré sur sigma 2, et e puissance moins x plus d au carré sur sigma 2. On en conclut que l'état d'interférence ne dépend que de x et est le même, quel que soit y et z, pour un x donné. On en conclut donc que les plans équiphases du système d'interférence sont des plans perpendiculaires à l'axe x et que par suite, dans un plan passant par OX, la figure d'interférence, les formes d'interférence, sont des droites perpendiculaires à l'axe OX. Ce sont donc des franges rectilignes perpendiculaires à OX. Transparent T108, un tel résultat est complètement différent de celui qu'on obtiendrait si l'on avait, au lieu de deux paquets d'ondes qu'on lâche initialement à l'instant T égale 0, deux sources, quasi ponctuelles, situées en X égale plus ou moins D sur l'axe OX et émettant de manière continue des ondes de De Broglie de vecteurs d'ondes K0 fixes. En effet, dans un tel cas, la propagation ferait apparaître, je rappelle que je suppose ici qu'il n'y a pas d'interaction entre les particules, donc la propagation fera apparaître des ondes sphériques et puissance IK0R sur R centrées sur chacune des deux sources. Et une telle onde sphérique, évidemment, n'est pas factorisable en un produit de trois fonctions de x, de y et de z. De sorte que, dans un plan contenant OX, les franges d'interférence ne seraient plus des droites perpendiculaires à OX, mais des hyperboles ayant les deux sources pour foyer, puisque nous savons que dans une expérience d'interférence avec deux sources ponctuelles monochromatiques, les surfaces équiphases sont des hyperboloïdes ayant les deux sources pour foyer. J'apporte maintenant un nouveau paragraphe de ce cours, qui est la description de l'expérience réalisée à MIT il y a un peu plus de deux ans par le groupe de Wolfgang Ketterle, qui est donné dans les références 1 et 2 un peu plus loin. Il faut tout d'abord que j'explique comment cette équipe réalise donc une situation correspondant initialement à deux condensats ayant leur centre situé sur l'axe OX à une distance, à une certaine distance l'un de l'autre. On part d'un condensat ayant la forme d'un cigare allongé le long de l'axe OX. Vous savez en effet que dans les expériences de condensation de Bose-Einstein utilisant un piège de Penning, le potentiel de piégeage est très anisotrope et il y a une direction suivant laquelle, la direction longitudinale suivant laquelle le potentiel est très peu piégeant, et où par conséquent le nuage atomique puis le condensat ont des formes très allongées, on suppose donc que cette direction longitudinale est le long de l'axe X. De sorte que les directions de piégeage fort, où le coefficient de Rader est important, sont perpendiculaires à OX. Il faut d'ailleurs que l'axe OX soit perpendiculaire au champ de gravitation pour que le potentiel de piégeage vertical soit suffisamment fort pour compenser l'effet de la gravitation. Donc on part d'un condensat, il y a la forme d'un cigare allongé, et on va couper ce condensat au moyen d'un faisceau laser désaccordé vers le bleu, focalité sous forme d'une nappe très étroite perpendiculaire à OX, et comme le déplacement lumineux pour un désaccord bleu est positif, ce faisceau laser va introduire donc une barrière de potentiel le long de l'axe OX, de largeur à peu près 12 microns, et va donc séparer le condensat en deux parties. Ce que j'ai dessiné ici, où j'ai représenté le potentiel de piégeage, plus la barrière répulsive due au laser. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en variant l'intensité du laser, on varie la hauteur V0 de la barrière, et on varie donc l'écart entre les minima des deux puits que l'on fait apparaître en introduisant le faisceau laser. Transparent T110. La figure suivante, donc représentée dans le transparent suivant, figure extraite de la référence 1, représente des photographies du condensat ou des condensats dans plusieurs conditions expérimentales. À gauche, la figure A1 représente le condensat initial. Vous voyez qu'il a une longueur d'environ 200 microns et une largeur beaucoup plus faible puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a la forme d'un cigare allongé. La figure 2 représente le condensat qui a été coupé en deux avec une nappe de lumière perpendiculaire à son axe créée par un laser de puissance 7 milliwatts. On voit clairement maintenant qu'il y a deux condensats séparés. Si on augmente la puissance du faisceau laser qu'on passe à 43 milliwatts, on obtient la figure A3 qui représente maintenant deux condensats qui sont séparés par une distance plus grande que tout à l'heure. Enfin, dans certaines expériences, il peut être intéressant de supprimer l'un des deux condensats en éclairant par exemple ce condensat par une lumière résonante qui va faire sortir les atomes du potentiel de piégeage. Et la figure B ici représente le condensat qui reste qu'on n'a pas détruit. Transparence T111. Je vais maintenant rapidement exposer le principe de l'expérience. Donc, voici le condensat initial, qui a été coupé en deux par le faisceau laser, et à t égale 0, donc, on coupe le potentiel de piégeage, et les deux condensats vont subir une expansion balistique. Comme les deux condensats sont beaucoup plus, ont une largeur beaucoup plus petite dans la direction X, qui est la direction de l'allongement du cigare, que dans les directions perpendiculaires, l'expansion balistique le long de cette direction va être beaucoup plus rapide que dans l'autre direction. Donc le rapport d'anisotropie des deux condensats va changer au cours du temps, comme cela apparaît sur cette figure. Et si l'on attend 40 millisecondes, les deux nuages sont tombés d'environ 8 mm, et vous voyez maintenant que l'anisotropie de ces deux nuages a changé de signe. Ils sont allongés maintenant dans la direction verticale, et ils se recouvrent sur une certaine partie. Ce qui est important aussi, c'est que l'expansion le long de la direction verticale, qui est très rapide, va diminuer très rapidement la densité atomique dans chacun des deux condensats, et par suite, va donc diminuer l'importance des interactions. Alors, pour voir les franges d'interférence apparaissant dans la zone de recouvrement des deux condensats, on éclaire les deux condensats par un faisceau laser sonde qui se propage vers le haut, et qui va être détecté par une caméra, représentée ici. Mais vous voyez maintenant que, comme les plans équiphases sont des plans verticaux, il faut procéder à un alignement extrêmement soigné du faisceau laser vertical si on ne veut pas que les figures formées par les franges d'interférence se brouillent. Alors, pour remédier à cette difficulté, le groupe de MIT a eu l'idée très astucieuse d'ajouter une nappe de lumière créée par un faisceau de pompage optique perpendiculaire à l'axe vertical et qui va sélectionner une tranche très mince d'atomes de quelques dizaines de microns et qui va les pomper optiquement dans un état qui est absorbant pour la lumière du faisceau sombre. Ainsi, on va détecter une petite tranche d'épaisseur faible des atomes et les problèmes d'alignement vertical du faisceau laser par rapport au plan équiphase va être beaucoup moins critique. Donc, on va avoir un contraste plus important des franges, mais évidemment au détriment d'une perte d'atomes, puisque maintenant on va détecter un nombre plus petit d'atomes. Transparent T112. Le transparent suivant donne une photo de la couverture du numéro de Science du 31 janvier 1997, où cette publication est sortie pour la première fois, et où vous voyez donc très clairement les franges détectées par le faisceau laser sonde. On voit des franges avec un très beau contraste. Transparent T113. Le transparent suivant donne, disons, un enregistrement, la courbe en très plein que vous voyez ici, donne un enregistrement des franges d'interférence détecté par le faisceau laser sonde. Vous voyez qu'il y a très clairement sur la zone de recouvrement des deux condensats, dont les centres sont initialement centrés autour des positions 200 microns et 400 microns, vous voyez que dans la zone de recouvrement, on voit apparaître des franges avec un contraste très suffisant. Si par contre, on élimine l'un des deux condensats avec un faisceau laser, qui le fait sortir de la zone de piégeage, initialement, vous voyez à ce moment-là que les franges disparaissent et qu'on ne voit plus que le seul condensat de gauche dont le centre est situé au voisinage de l'abscisse x égale 200 sur cette courbe. Transparent T114. Le transparent suivant donne quelques résultats quantitatifs concernant l'interfrange. Ces deux figures qui sont ici, la figure A et la figure B, représente la variation de l'interfrange mesurée avec la puissance laser sur la figure A et avec la séparation des deux condensats sur la figure B. Je vous rappelle qu'en variant l'intensité du faisceau laser qui coupe le condensat en deux, on varie la hauteur de la barrière de potentiel et par suite l'écart entre les centres des deux condensats. Sur la figure B, la courbe en trait plein représente la loi prévue théoriquement pour l'interfrange, en supposant qu'il s'agit initialement de deux condensats dont les centres sont séparés d'une distance supérieure à leur largeur. Vous voyez que les résultats expérimentaux sont relativement proches de cette courbe théorique, mais qu'ils donnent un interfrange légèrement plus petit. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'origine physique de cette différence. Transparent T115. J'aborde maintenant un autre paragraphe qui est consacré à un point important qui est en fait une analyse plus quantitative de l'expérience précédente qui va nous permettre maintenant de comparer les observations expérimentales avec les prédictions de calcul plus précis. Plus précis parce que tout d'abord, ils tiennent compte des interactions entre atomes et qu'ensuite, ils tiennent compte du fait que la forme initiale des deux condensats n'est pas simplement une somme de deux gaussiennes séparées par une distance grande devant leur largeur. En particulier, quand l'intensité du faisceau laser qui coupe en deux le condensat n'est pas très élevée, les deux condensats initialement sont pas très nettement séparés l'un de l'autre, ont une forme qui n'est pas forcément une forme gaussienne, et les prédictions théoriques concernant la forme des franges d'interférence doit être à ce moment-là effectuée de manière plus soigneuse. En particulier, je pense qu'il est important de procéder à une telle analyse plus quantitative de manière à bien s'assurer que les phénomènes que l'on observe dans l'expérience de MIT sont bien des figures d'interférence et ne sont pas dues par exemple à des ondes de densité qui seraient dues à la collision entre deux condensats qui sont en train ne serait pas dû à des ondes hydrodynamiques, des ondes de densité hydrodynamique qui seraient liées à la collision entre deux condensats. Les calculs dont je vais vous parler ont été effectués par une équipe de chercheurs en Allemagne et ils utilisent, ils ont donné donc dans les références 4, 5 et 6 données dans le transparent de référence, et ils utilisent l'équation de Gross-Pitaïsky, indépendant du temps et dépendant du temps, pour d'une part déterminer la forme initiale des deux condensats avant l'expansion balistique, pour étudier ensuite leur expansion balistique et pour étudier enfin la figure d'interférence lorsqu'ils se recouvrent. Transparent T116. Je n'ai bien sûr pas le temps ici d'entrer dans le détail de cette analyse théorique qui repose en particulier sur un grand nombre de calculs numériques, et je voudrais surtout insister sur les résultats essentiels que l'on obtient. Premier résultat, c'est que l'expansion des deux condensats, qui est très rapide dans les directions perpendiculaires à OX, réduit très vite la densité et donc l'importance des interactions sur les franges observées après cette expansion. Donc ça, c'est un premier résultat important. N'oublions pas tout de même que le long de OX, les interactions qui sont répulsives introduisent également une accélération parce que les atomes se repoussent. Et cette interaction, cette répulsion initiale, fait que les ondes qui interfèrent lorsque les deux condensats se recouvrent ont été accélérées initialement. Elles ont donc un vecteur d'onde plus grand que celui qu'elles auraient en absence d'interaction. Et c'est la raison pour laquelle l'interfrange qu'on observe est légèrement plus petit que celui pi h bar t sur md calculé en absence d'interaction, qui était la courbe en trait plein de la figure expérimentale B donnée plus haut. Ça, c'est un premier résultat. Deuxième résultat important, l'allure des franges est très différente suivant que les deux condensats sont initialement bien séparés ou peu séparés. Transparent T117. Considérons d'abord le cas où les condensats sont très peu couplés l'un à l'autre, c'est-à-dire le cas où la hauteur V0 de la barrière de potentiel est très grande devant le potentiel chimique mu. Dans une telle situation, les deux condensats sont initialement très bien séparés, et l'argument que j'ai donné tout à l'heure pour la séparation des mouvements le long de OX, OY, OZ, cette condition est bien satisfaite. Cette séparation existe bien, et on prédit donc que les franges vont avoir une structure rectiligne et régulière, et en fait on prédit que plusieurs franges sont observables. Par contre, lorsque les condensats sont très couplés, lorsque la hauteur de la barrière de potentiel n'est pas très très élevée devant le potentiel chimique, à ce moment-là les deux condensats sont très peu séparés, et seul un calcul numérique précis permet de prédire les phénomènes. En particulier, on trouve que les transparent T118. Le transparent suivant va nous donner une confrontation théorie-expérience lorsque les condensats sont bien séparés. La figure petit a représente les franges calculées théoriquement dans les conditions de l'expérience. La figure petit b dans le résultat expérimental. On voit qu'il est notablement différent du précédent, mais que l'interfrange est bien reproduit. Ceci dit, il ne faut pas oublier que la théorie suppose un pouvoir de résolution expérimentale infini, égal à 1, enfin plutôt suppose une résolution parfaite. En fait, il n'en est rien, puisque la résolution de la détection optique n'est pas infiniment précise, et en fait, elle peut être déterminée expérimentalement avec des interférences, une expérience d'interférence optique, et en tenant compte de ce pouvoir de résolution fini de l'expérience, on peut reprendre la courbe théorique, la convoluer avec la courbe de détection expérimentale, et c'est ce qui est représenté sur la figure C, et on voit à ce moment-là que l'accord théorie-expérience est tout à fait satisfaisant. Transparent T119. Le transparent suivant donne une confrontation théorie-expérience pour des condensats très peu séparés. Chaque courbe petit a représente la forme initiale du condensat en présence de la barrière de potentiel de hauteur V0, et la courbe petit b donne les franges d'interférence après l'expansion balistique. La première figure du haut donne la prédiction théorique pour certaines conditions expérimentales, et la courbe du bas donne l'expérience, et là vous voyez que aussi bien pour la forme initiale du condensat que pour la forme de la figure d'interférence, on retrouve bien théoriquement, on interprète bien théoriquement les observations expérimentales. On voit en particulier que la frange centrale est de loin prédominante par rapport aux autres. Transparent T120. Le transparent suivant donne maintenant des figures à deux dimensions, donnant l'allure des franges. Et ici, il s'agit de trois conditions expérimentales qui, en allant de la gauche vers la droite, correspondent à des condensats qui sont au début très peu séparés, puis de plus en plus séparés. La partie supérieure de la figure donne les observations expérimentales, la partie inférieure la théorie. On voit que tout à fait à droite, pour des condensats très séparés, on a des franges rectilignes, expérimentalement, qui sont bien prédites théoriquement, et que quand les condensats sont de plus en plus proches l'un de l'autre, on voit que plus petit nombre de franges sont observables, pour n'avoir plus, pour des condensats très proches l'un de l'autre, que la frange centrale. On voit également que les franges ne sont plus rectilignes, mais deviennent maintenant bombées et ont une forme concave. Transparent T121. Nous pouvons donc maintenant conclure un petit peu les résultats que concluent le cours d'aujourd'hui en essayant de résumer un petit peu les résultats qui ont été obtenus. Tout d'abord, le point important, c'est que on peut considérer que la possibilité de faire interférer des ondes de De Broglie atomiques issues de deux sources différentes a été démontrée expérimentalement. Il faut bien voir ici qu'il s'agit d'un phénomène tout à fait différent de celui qu'on observe en faisant interférer des ondes de De Broglie issues de la même source après séparation par une lame séparatrice et recombinaison des deux ondes. Ici, les deux ondes qui interfèrent ne viennent pas de la même source, mais viennent de deux sources différentes. Ce qui montre donc qu'on peut faire interférer des ondes de De Broglie issues de deux sources différentes. Il s'agit en quelque sorte de la transposition à des ondes de De Broglie de l'expérience qui est bien connue, où on observe des phénomènes d'interférence en faisant interférer deux faisceaux laser différents. Deuxième point important, l'accord théorie-expérience montre que les franges observées sont bien dues à des effets d'interférence et ne sont pas dues à des ondes de densité de deux condensats entrant en collision. Ce point est important, donc il fallait donc faire cette confrontation théorie-expérience pour s'en assurer. Troisième point, les calculs théoriques supposent en fait que les condensats sont parfaitement cohérents, c'est-à-dire qu'ils ont la même phase en tous les points. Le fait que les expériences sont en accord avec les prédictions théoriques montre donc que, expérimentalement, la phase dans chaque condensat ne varie pas d'un point à l'autre et que donc, dans chaque condensat, la cohérence spatiale a une longue portée, une portée égale à la dimension même du condensat. Je vous avais décrit, je crois, dans le cours 3, des expériences sur les fonctions de corrélation d'ordre 2, G2RR, et d'ordre 3, G3RRR. Ces expériences testaient les propriétés de courte portée de la cohérence des condensats. L'expérience que j'ai décrite aujourd'hui teste au contraire le caractère longue portée de la cohérence spatiale d'un condensat. Transparent T122. Je voudrais enfin mentionner que il y a un certain nombre de problèmes qui n'ont pas été encore abordés ni étudiés ici, qui font l'objet de cours, des cours suivants. Premier point, les calculs qui ont été faits aujourd'hui, au début de ce cours, ont été faits en supposant une certaine phase relative phi entre les deux condensats. Cette phase phi pouvant éventuellement varier d'une expérience à l'autre. On peut alors se poser la question, y a-t-il un phénomène physique qui fixe cette phase relative? D'où vient-elle? Qu'est-ce qui la détermine? Nous verrons dans un cours ultérieur, le prochain, que ce sont en fait les premiers processus de détection qui fixent cette phase relative. En d'autres termes, nous verrons qu'il est possible d'observer des franges expérimentales, même si l'on part d'un état initial, par exemple un produit de deux états de Fock, qui ne possède pas de phase relative bien définie, parce que ce sont les premiers processus de détection qui vont introduire et fixer une certaine phase relative en ces condensats, phase relative qui peut varier, bien sûr, aléatoirement d'une expérience à l'autre. Deuxième point, supposons maintenant, si vous voulez, que les deux condensats sont bien séparés et reste piégé. C'est-à-dire, supposons qu'il n'y a pas d'expansion balistique. Et supposons qu'à t égale 0, une phase relative phi bien définie existe entre eux. On peut se poser alors la question suivante, est-ce que cette phase relative va se maintenir indéfiniment au cours du temps? Est-ce que si on recommence l'expérience d'interférence entre deux condensats en variant l'intervalle de temps de préparation des deux condensats et l'instant où on les libère, est-ce que les fronts d'interférence vont avoir exactement la même allure ou est-ce que leur centre va se déplacer d'une expérience à l'autre? Ce problème pose le problème de l'interaction, des effets des interactions, et le problème qu'il faudra aborder dans un courant ultérieur, c'est est-ce que les interactions entre bosons ne vont pas brouiller, au bout d'un certain temps, la phase relative qu'on suppose exister initialement? Quel est ce temps de brouillage? En d'autres termes, quel est le temps de cohérence pour la phase relative de deux condensats? Ce sont ici, les deux problèmes que je viens de mentionner ici, vont être en fait les sujets des cours suivants.